Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire thune, vous savez qu'on a besoin de thune. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez thune, pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio, ou sur Google, en tapant Thune Podcast Tipeee, avec 3 E, T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
Ce dont on se rend compte, c'est que cette vie-là, bah, ça a un prix, en fait. Surtout quand on pense, comme mes parents, que de toute façon, un jour, on va claquer, et puis voilà, c'est pas grave, et puis voilà, on a un peu d'argent de côté, tout ça va bien suffire, et on sera parti avant que tout ça soit asséché. Sauf quand on vit au-delà de 90 ans, bah, qu'on a des économies, les économies s'assèchent s'il faut payer un EHPAD, s'il faut payer une aide à domicile, etc.
La vie, ça a un coût, nous rappelle François. Et autant ce coût, on trouve tout à fait normal de l'assumer lorsqu'il s'agit de subvenir aux besoins d'un enfant, par exemple. Autant ça paraît moins naturel, moins facile, lorsque c'est de nos aînés qu'un jour il faut prendre soin. Les parents qui vivent de plus en plus vieux, les frais médicaux, les aides à domicile, les économies qui fondent, la colère parfois. François raconte tout ça, mais aussi les joies de ce surcroît de vie, quoi qu'il en coûte. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler d'argent avec François. François, tu es écrivain, tu vis en région parisienne, et il vient de t'arriver à un truc qui arrive à beaucoup de gens, en fait, ces dernières années.
Bah, qui arrive à pas tout le monde, mais pas loin, enfin des gens quand ils passent la cinquantaine, quoi. Moi, j'ai une copine là, que j'ai vue il y a pas longtemps qui me dit « Moi, j'ai eu de la chance. Oh, j'ai 50 ans passés. Moi, j'ai perdu mes parents jeunes. Donc, j'ai pas tous les emmerdements qu'à peu près tous mes amis ont maintenant autour de moi. » C'est-à-dire que là, on passe à cinquantaine, on commence à avoir des parents qui sont dépendants, vont être dépendants et vont nous poser plein de soucis. Et voilà. Et puis, ça va être, on va devenir comme formule consacrée, les parents de nos parents, quoi. Et c'est pas sans occasionner, quelques problèmes financiers, souvent, genre d'histoire.
Toi, en plus, t'es fils unique ?
Ouais, mais ce qui est pas mal, en fait, c'est que moi, j'ai un copain qui est aussi dans la même situation que moi, mais lui, il a un frère et une sœur, et alors sa sœur, elle fait rien, et son frère, pas grand-chose non plus, mais il l'engueule dès que mon pote fait quelque chose. Donc, je suis assez content, finalement, d'être fils unique. On me dit souvent, ah, t'es fils unique pour t'occuper de tes parents, mais si en plus, j'avais à me cogner un frère relou ou une sœur démissionnaire, je pense que c'est encore pire.
Alors, les ennuis ont commencé quand, en fait ?
Bah, j'ai envie de dire quand ma mère a été sauvée par la médecine. C'est-à-dire que ma mère est décédée, là, il n'y a pas longtemps, à l'âge de 99 ans.
99 ans, hein ?
Ouais, ouais. Et elle est morte avec sa tête. Et c'est vraiment le corps qui a lâché. Elle avait toute sa tête. Voilà, à un moment, c'était plus possible autrement. Mais il y a 7 ans... elle a fait un malaise à un moment et au moment où on lui annonçait avec ma femme que ma femme était enceinte et qu'on allait avoir un enfant, le soir elle était à l'hôpital. Alors
le soir ta mère était à l'hôpital.
Voilà, exactement. Ça a dû lui faire un choc. Bon, elle se traînait depuis un petit moment, quoi. Après 90 ans, elle commençait à fatiguer un peu Avant, elle faisait le ménage chez elle, faisait la cuisine pour plusieurs. Elle était très active. Et,
alors, on va recontextualiser un tout petit peu. Tes parents, ils étaient ensemble?
Oui, mes parents, ils ont été mariés pendant 72 ans, je crois. Ils s'étaient mariés en 1949. Donc, ouais, ils sont restés plus de 70 ans ensemble. Oui.
Donc, ils vivaient dans une petite maison en Normandie?
Ouais, ouais, une maison en Normandie. Hein, ils avaient travaillé là sur la deuxième partie de leur vie, dans cette région. Puis après, ils ont pris leur retraite. Et ils ont eu une retraite vraiment tranquille, heureuse. Ils sont allés en Chine, en Guadeloupe, en Grèce.
Après, c'est des gens avec des revenus plutôt modestes.
Pas tant que ça, puisqu'ils étaient à peu près, si on doit donner les chiffres, ils étaient à peu près. Bon, ils avaient un petit studio, enfin, qui était l'ancien bureau de mon père qu'il avait acheté à Paris, qu'il louait. En gros, ils avaient 4 500 de revenus, quoi.
À deux?
Oui, à deux, ouais. Ce qui est un peu plus que la moyenne, quand même.
Ton père avait une petite entreprise?
Ouais. Qu'il avait revendu.
D'escalier, je crois.
Voilà, ça de va. Construction métallique et tout. Il était ingénieur de formation.
Et puis ta mère l'aidait, en fait.
Ouais, c'est ça. Ouais, la première partie de sa vie, elle avait fait des chapeaux. Elle était modiste. Puis à un moment, les femmes ont arrêté de se coiffer pour sortir. Et puis, bon, ce métier a un peu périclité. Comme je grandissais, elle est venue s'occuper de moi et du coup, filer un coup de main à mon père. Voilà, donc c'est typiquement le schéma où la femme a peu de revenus puisqu'elle travaille pour son mari qui la paye pas beaucoup, qui est son patron en même temps. Mais bon, il s'arrange. C'est une espèce de mi-temps amélioré. Et puis, bah, elle a une retraite de merde comme ça. Elle avait 1 200 € de retraite, quoi.
Et ils ont fait un petit investissement dans de l'immobilier.
Ouais, ouais, c'est ça. Mon père avait un petit truc qu'il avait acheté pour avoir un bureau à Paris. Le mètre carré parisien, c'est du délire. Donc, bah, à un moment, sans faire exprès, il s'est retrouvé avec un petit patrimoine comme ça. Puis, il avait une chambre de bonne à côté. Et puis, voilà. Ça leur occasionnait, je sais pas, 1 000, 1 200 de revenus en plus. Quoi.
De complément de retraite.
Ouais, de complément de retraite. On est dans la classe petite bourgeoise, quoi, dans la classe moyenne sup.
Donc, tout se passe bien. Ils sont propriétaires de leur petite maison en Normandie avec leur jardin.
Car grâce à l'inflation, parce qu'on est là pour parler d'argent, l'inflation dans les années 70, ça revient de façon galopante aussi. Mais dans les années 70, c'est une inflation qui était presque à deux chiffres. Donc, ils avaient commencé à payer leur baraque en 75, un truc comme ça. Et quand ils ont fini de la payer 10 ans après, les mensualités, c'était plus rien, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu passer la maison. Grâce à l'inflation, ils se sont achetés une maison sans que ça leur fasse mal, quoi. C'est comme des gens qui avaient connu la guerre, hein. La sœur de mon père était quasiment morte de faim. Elle avait contracté des maladies pendant la guerre de 40. Après sanatorium, etc. et tout. Enfin, c'est des gens qui avaient morflé dans leur jeunesse. Mais bon, cela dit, ils en ont bien profité de leur vieillesse. Donc, c'est des gens qui ont connu les 30 glorieuses, les fameuses 30 glorieuses, donc la reconstruction. Mon père bossait dans le bâtiment en plus. Ils n'étaient pas fonctionnaires, mais ils pensaient qu'en gros, quand on travaille bien et qu'on est sérieux, bah, on est récompensé, quoi. Qu'en gros, la société nous récompense, quoi.
Et donc, il y a 7 ans, ils sont vaillants. Et puis, un jour, ta mère n'est plus vaillante.
Ben, elle est plus vaillante parce que, bon, elle fatiguait depuis un petit moment, parce qu'elle avait 90 ans passés. Et qu'à 90 ans, quand même, on commence à sentir un peu le corps qui commence à lâcher. Hein. Moi, j'étais un de ceux qui avaient les parents les plus vieux, quoi. Puis moi, ils m'avaient eu tard, en plus. Et voilà, ils avaient mon père a 4 ans de moins que ma mère. Ma mère avait 90 ans quand elle a commencé un peu à montrer des signes de fatigue. Et puis, à un moment, quand elle en avait, donc je sais plus, 92 ou 93, elle a fait un malaise cardiaque. Et on s'est rendu compte qu'elle avait un problème de valve aortique. Et ça allait occasionner des malaises, etc. Et très logiquement, au bout de 6 mois, normalement, elle devait mourir, quoi.
Alors, comment ça se passe? Elle a ce malaise cardiaque, elle se retrouve à l'hosto.
Ouais, ouais,
elle
ouais.
Elle revient à la maison.
Oui, oui, elle revient à la maison. Après, ils lui disent, tiens, il faut vous opérer. Elle va pour se faire opérer, pour se faire poser une prothèse en caoutchouc ou en artère de cochon, je ne sais plus. C'est ça qu'on met. Alors, après, l'opération en soi, ce n'est pas un truc à cœur ouvert, hein. On fait une incision dans l'artère fémorale,
ouais, donc
qu'on chope au niveau de la hanche ou un truc comme ça. Et hop, on passe un tuyau, une caméra, ben, tout ça se passe très bien, ça dure rien. Sauf qu'elle a fait un malaise sur la table d'opération, donc il y a un caillot de sang qui... Mais bon, en gros, ils lui avaient posé des stents, ils avaient refermé, OK, bon, on peut pas l'opérer. Donc là, il était assez clairement acté qu'elle allait refaire 2-3 malaises cardiaques et au bout du 3e ou 4e, elle allait y passer, quoi. Et puis, bon...
Ce moment, t'es triste?
Oui, bien sûr. Non, c'est un choc parce qu'elle avait été plutôt en. Mes parents sont des gens qui étaient quasiment jamais à l'hôpital de leur vie, quoi. Peut-être une fois chacun, quoi. Ils n'avaient pas eu de cancer, il n'y avait pas eu de gros trucs, il n'y avait pas eu de crise cardiaque ni rien.
Tout d'un coup, la maladie.
La maladie, ouais.
Arrive dans la maison.
Voilà. Mais la maladie, c'est la vieillesse. Donc, il y a quelque chose à un endroit qui est un peu. Bon, mais ils étaient assez philosophes là-dessus, et puis ils estimaient qu'ils avaient fait leur temps. Enfin, ils avaient un discours, assez philosophe, assez résigné. Et donc, c'était un peu, voilà, on savait. Moi, je m'étais renseigné auprès des médecins et tout, qui m'avaient dit, de toute façon, les chirurgiens de Rouen ne souhaitent pas réopérer. Donc, il était à peu près acquis que, voilà, qu'à un moment, il y aurait le malaise de trop, quoi. Et donc, du coup, j'ai fait tous les hôpitaux. Enfin, je fais pas mal d'hôpitaux de la région parisienne, de Rouen, de Pontoise. Et bien, à Pontoise, je suis tombé sur un mec qui était plutôt bien, dont je me souviens très bien du nom et tout. Et on a discuté tout ça. Je lui ai dit, vous savez, le problème qu'il y a là, vous avez vu, hein, c'est un truc de valve aortique. Et donc, le mec me dit, OK, d'accord, bon, je vais quand même rappeler à Rouen, etc. Bon, voilà. Moi, je vais voir ma mère dans sa chambre d'hôpital qui me dit assez clairement, enfin, de toute façon, un jour, il faut accepter que la vie, ça s'arrête, c'est comme ça. Et là, le chirurgien tape à la porte. Il fait « Bon, alors, je viens d'appeler Rouen, là. Alors, ils ont des valves aortiques nouvelles qu'ils ont reçues. Ben, on peut lui poser, mais il faudrait faire ça vite, quoi. »
Ah.
Ouais. Et donc, hop, le lendemain, hop, c'était ambulance Pontoise-Rouen, rebondissement, coup de théâtre. On peut lui poser la valve en question. Et c'est la valve qui va la sauver pendant 6 ans encore, en fait. Alors qu'elle a dû mourir, elle aurait dû mourir 3 semaines après. Ben, elle a chopé un rap de 6 ans de vie. Et alors vraiment, les gars pas affolés à Rouen, c'était « Oh, vous inquiétez pas, ça dure 20 minutes, de toute façon, des trucs, on en pose 3 par semaine. » Et de fait...
Elle a gagné 6 ans.
Elle a gagné 6 ans de vie, quoi. Vraiment.
Alors, c'est là que... Là, on rentre dans une autre...
Voilà, c'est ce surcroît de vie, ce bonus de vie et d'amour et de vie familiale parce qu'elle a pu connaître ma fille, par exemple. Ben quand ma mère s'est fait opérer pour la dernière fois de sa valve aortique, là, ma fille avait, je sais pas, 2 mois, 3 mois. Et je pense que c'est un truc qui a fait des années de bonus de vie à ma mère aussi.
Mais
tout ça est totalement merveilleux, idyllique.
Tout ça est totalement merveilleux, idyllique. Sauf que ces années, c'est pas gratos.
Ben c'est ça le truc, voilà. C'est ça l'histoire. C'est ce dont on se rend compte, c'est que cet amour-là, cette harmonie-là, cette vie-là, ben ça a un prix en fait, quoi. Ça a un prix, surtout quand on pense, comme mes parents, que de toute façon, un jour, on va claquer, et puis voilà, c'est pas grave, et puis voilà, on a un peu d'argent de côté, tout ça va bien suffire, et voilà, et puis on sera parti avant que tout ça soit asséché, sauf quand on vit au-delà de 90 ans, bah, qu'on a des économies, les économies s'assèchent s'il faut payer un EHPAD, s'il faut payer une aide à domicile, etc.
Alors, comment ça s'est passé concrètement? Tu te rappelles des chiffres?
Alors, les chiffres. Bah, l'EHPAD dans lequel ma mère a dû aller au bout d'un moment, parce que donc elle avait, je sais pas, à l'époque, 96 ans, je crois, 95 ou 96. Elle était vraiment plus en mesure de rester chez elle. Et en plus, elle angoissait beaucoup de rester chez elle parce qu'elle avait peur de tomber. Elle se voyait aussi diminuer et ne plus pouvoir faire les choses qu'elle faisait avant. Donc, c'est une décision qui a été prise entre mes parents, hein. Qu'elle aille en EHPAD médicalisé, parce que si jamais il y avait un problème quelconque, il y avait des infirmières, etc. Il y a un EHPAD à côté de chez eux, en Normandie, qui ne coûte que 3000 euros.
Par mois?
Par mois. C'est-à-dire que ma mère, sa meilleure pote, sa meilleure amie, qui était dans la vallée de Chevreuse, elle avait un EHPAD à 7000 euros, je crois, par mois.
Mais là, ta mère, si tes deux parents ont 4500 euros de revenus par mois,
ouais,
et que l'EHPAD, même pas cher, il coûte 3000 balles...
Ouais. On n'est plus qu'à 1 500 de revenus disponibles.
C'est ça.
C'est ça. Une maison, ça coûte de l'argent à entretenir.
La foncière,
Les réparations.
Les taxes d'habitation.
Par exemple, aujourd'hui, j'ai récupéré la maison puisque mon père est parti à son tour en EHPAD. Il y avait une fuite d'eau dans les toilettes. C'était bêta, mais j'ai fermé le robinet qui me restait dans les mains. Donc, il a fallu appeler. Donc, ça pissait l'eau. Et donc, c'est un truc à se retrouver avec une facture d'eau de 2000 balles. Voilà, donc j'ai appelé un plombier, c'est un samedi, le mec est revenu le dimanche, etc. Bon, il a résolu le truc à peu près, voilà, je repars, et là, il y a le jardinier, qui est le mec qui tond la pelouse, qui habite derrière, qui m'appelle en me disant, il y a l'arbre là qui est devant la maison qui est tombé.
La baraque a un coût.
Ah, carrément.
Et donc, il n'y a plus que 1500 balles de liquidité. Et puis, ton père, à ce moment-là, doit quand même aussi subvenir à ses besoins.
Voilà, absolument. Donc, et puis, il est subvient de moins en moins. C'est-à-dire qu'il y a quand même à ce moment-là, lui, 92, 13, je ne sais plus, il commence à perdre un peu la boule, etc. Puis, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne faire le ménage et un peu lui faire chauffer son repas et un peu s'occuper de lui.
Parce que c'était ta mère qui s'occupait
de lui
avant.
C'était aussi ma mère qui s'occupait de ça beaucoup. Donc, il y a quelqu'un qui vient tous les mois, ça coûte 1000 balles.
Bah là, du coup, il ne reste plus beaucoup d'argent.
Il ne reste rien du tout parce qu'il y a quand même des impôts fonciers, des taxes d'habitation, etc. Et tout. Donc, en gros, il commence à ne plus rester rien du tout. Et il faut piocher dans la réserve. Et la réserve, à ce moment-là, elle est, je ne sais pas, de 30 000, 40 000. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, moi, j'ai une procuration qui m'en fait parce que si jamais il leur arrive un accident, mais je n'ai pas mis le nez dans les comptes encore. Donc,
c'est délicat.
Pas. C'est délicat. Quelque part, c'est aussi acté un manque d'autonomie de leur part ou au moins de la part de mon père, si moi je mets le nez dans les comptes. J'ai pas envie, il a pas envie non plus. Donc, y a un truc, une espèce de modus vivendi entre nous qui fait que voilà, il est censé s'occuper de lui-même. Voilà. Comme en plus, il a un petit flip de base sur l'argent, comme il a peur de manquer beaucoup, je prends qu'à moitié au sérieux le fait qu'il me dise « Non, mais tu sais, la réserve est en train de fondre à vue d'œil. » Sauf qu'effectivement, la réserve fond à vue d'œil.
En fait, il avait raison sur ce coup-là.
Je ne sais pas s'il s'en est vraiment rendu compte, c'était un fantasme. En tout cas, c'était oui, c'est
c'était le cas.
Il s'est aviré que c'était le cas, quoi. C'était ouais. Ouais. Et donc, bah, mois par mois, ça fond à coup de 1000 balles, 2000 balles et tout. Un truc tout bête, il va à l'hôpital un moment parce qu'il est quand même pas dans une santé folle non plus. Je ne sais plus ce qu'il. En fait, il a un emphysème au poumon parce que quand même, il a fumé comme un pompier pendant 60 ans, je crois. Il s'est arrêté de fumer vers 85 ans parce qu'il a eu peur. Mais sinon, il avait fumé, comme il fumait jusqu'à 3 paquets par jour. Donc, la moindre des choses, c'est d'avoir quand même un petit emphysème au poumon, quoi. Donc, il se retrouve à l'hosto. C'est pas grave, hein. Il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de rien. Bon, il est fatigué et tout. Ils sont quand même assez sérieux. Donc, ils lui font des examens. Ils lui font un check-up. C'était le cas, quoi. Dont il ne ressort rien de très inquiétant pour un mec de son âge. Simplement, il y est resté, je sais pas, il est resté 3 semaines, un truc comme ça. Et il n'avait pas de mutuelle. Donc, ben, un jour, il reçoit la facture, quoi.
La vache.
C'est le moment où moi, je commence à regarder les factures. Là, ça coûte 5000 balles quand même. Boum, 5000 balles de facture d'hôpital, parce qu'en France, l'hôpital est gratuit jusqu'à un certain point, si on n'a pas de mutuelle. Voilà, donc, on lui a fait prendre après une mutuelle à 45 euros par mois qui couvre tous les frais d'hôpital où il est retourné depuis et sans que ce soit dramatique.
Donc, c'est à ce moment-là que toi, que tu te décides finalement, malgré le fait que tu n'en aies pas du tout envie, que tu te dis, bon, allez, je regarde ce qui se passe dans les comptes.
Ouais, parce qu'il me le demande aussi et que je vois qu'il a de plus en plus de mal et voilà.
Là, tu mets les dans les comptes et tu vois que ça fond.
Ah ouais, c'est en train de fondre et ça fond très vite, quoi, les sous. Surtout qu'à ce moment-là, il peut déduire qu'une partie des revenus. Donc, il paye des impôts encore. Donc, il peut déduire qu'une partie des versements à l'EHPAD, entre les impôts, les trucs de l'hôpital, parce que pas de mutuelle, les frais divers et variés, on arrive vite, hein, qu'il y a un revenu qui s'assèche, alors que c'est pas encore une fois un petit revenu.
Enfin, c'est 4 500 à deux, quoi.
Ouais, ouais, mais c'est plus que le fameux revenu médian, nettement plus, quoi. Ouais. Donc, on est encore une fois, dans la classe moyenne supérieure. Hein. On n'est pas dans la classe moyenne, on n'est pas chez les prolos.
Et l'EHPAD n'est pas très cher, t'as dit.
Et l'EHPAD n'est pas très cher. Ah oui, c'est certes un truc privé, mais ça dépend d'un groupe, mais pas d'un groupe qui a été chopé à donner des petits suisses avariés à ses pensionnaires. Puis quand ma mère est morte il y a 6 mois, le mec des pompes funèbres m'a dit non, mais c'était pas de là, c'est super. Nous, on va relever les corps parfois dans certains endroits. Je vous dis pas comment c'est dégueulasse.
Oh là là.
Donc, celui-là, vraiment, il est bien. Bah, du coup, mon père y est allé 3 mois après. Et voilà, donc.
Et donc, c'est toi qui désormais a la main sur les comptes.
Ouais.
Ton père sort de l'hosto.
Ouais.
Ta mère est à l'EHPAD.
Ouais.
Et là, tu sais qu'il te reste il te reste combien d'ailleurs?
Bah, il devait rester, je sais pas, 20 000, 25 000, un truc comme ça à l'époque.
Ouais. 25 000.
Ouais, ouais.
Et en gros, t'es à 1000 balles de débord par mois?
Ouais, à peu près, oui. Ouais, ça fait 2 ans, quoi.
Ça fait que tu peux tenir 2 ans.
Oui, voilà.
À ce rythme-là, avec tes parents dans cette situation-là.
Oui, en gros, c'est ça, oui. Et ma mère va mourir, en gros, quand. Elle n'était pas au courant du tout. J'ai jamais voulu la mettre au courant des.
Tu lui as jamais parlé argent?
Non. Non, je lui ai toujours dit que ça allait. C'était du genre à mourir pour nous soulager, quoi.
Ah, t'avais peur que si elle la prenne,
ouais.
Elle,
ouais.
Ouais, inconsciemment, elle accélère.
Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Oui, de toute façon, les trucs inconscients, quand les gens sont très, très vieux comme ça et que la mort se rapproche, enfin, on voit l'impact de la. Enfin, du moindre truc symbolique ou de la moindre petite chose, quoi, sur leur état de vie, de santé, de.
Toi, j'imagine que tout ça commence à te prendre du temps,
ouais.
De la charge mentale.
Ouais, la fameuse charge mentale. Ouais.
Bah oui.
Ouais, bah oui.
Mais t'es écrivain, t'as un métier qui demande une forme,
ouais.
de disponibilité,
ouais,
créative.
Ouais, carrément. Bien sûr, bien sûr.
Ça,
ouais.
Est-ce que ça affecte ta vie,
ouais,
professionnelle?
Clairement, clairement, mais pas forcément comme on le pense. C'est-à-dire que c'est pas forcément au moment donné où il y a un stress, un souci, un truc. C'est comme s'il y avait une espèce de masse finie d'énergie quelque part et que l'énergie qui passait à l'endroit des parents passait plus dans le travail. Donc c'est pas qu'on se sente plus fatigué ou moins créatif, ou c'est pas directement comme ça. C'est qu'en gros, au bout d'un an, je vais me rendre compte que ce contrat-là, il a mis vachement de temps à se signer. Quelque part, c'est pas de ma faute, mais quelque part, je sais que aussi je peux
t'as
faire.
Pas, t'as pas insisté, t'as oublié de rappeler,
ouais,
t'as
voilà,
pas lancé.
Voilà, le temps a été dilaté quelque part. C'est une espèce de temps inconscient, symbolique, qui est plus le temps réel et dont je me rends moins compte, quoi. Et après, très clairement. Une fois par semaine, en semaine, j'allais les voir. C'est-à-dire que j'emmenais mon père à l'EHPAD, j'allais le voir, je déjeunais avec lui et je l'emmenais et on passait du temps avec ma mère. Ou alors j'allais me voir ma mère tout seul s'il était fatigué ou jamais. Mais ça, c'était une journée par semaine. Ils sont pas très loin de chez moi. Ils sont à 1h15 de voiture, quoi. 1h15, 1h30. Bon, c'est une journée, quoi. Donc c'était parfois le mercredi, parfois j'y emmenais ma fille. Et mine de rien, ça fait que la semaine se réduit à 4 jours après, quoi. Donc, en termes d'énergie, de temps, oui, d'organisation, mine de rien, ça grignote du temps, quand même.
Bah ouais.
Voilà. Et sinon, le week-end aussi, on pouvait, à la place des jours, j'y allais plus ou moins en famille le week-end. Bon, c'est du temps aussi qu'on passe pas à faire autre chose, chez nous. Mais c'est vrai que le 4-5e, finalement...
Un peu contraint et forcé.
Ouais, contraint et forcé, qui m'est arrivé, qui a duré quand même.
Et un peu angoissant,
même.
J'imagine.
Alors, si on prend assez vite le pli, hein, on prend assez vite l'habitude des trucs comme ça, en fait. C'est rassurant aussi. Enfin, finalement, quand j'y vais, que je vois qu'ils vont bien, et je sais, en fait, j'y suis un moment, j'ai compris très clairement que ma présence et mon existence étaient quelque chose qui leur donnait des points de vie en plus. Et en termes d'énergie, et en termes d'amour, hein, pour appeler un mot couillon, sur ce sujet-là, c'est ça, c'est quelque part, ils étaient aussi rassurés de me voir. Voilà, ça les calmait, ça les rassurait, ça leur faisait du bien, ça leur donnait de la joie. Si j'y allais avec leur petite fille, c'était un bonus en plus. Donc, ça les a aussi fait vivre plus longtemps. Mais pendant ce temps-là, le compte, ça...
Et quand on s'en sort, il y avait moins d'argent.
Voilà.
Alors, arrive ce moment, parce que tu dis, quand tu prends les comptes en main, en gros, il y en a pour 2 ans.
Ouais.
Il y a 25 000 balles, il y a 25 000 balles d'économie, il y a 1 000 balles de débord par mois.
Ouais.
La soustraction est
ouais.
faite.
Ouais.
Et ils vivent beaucoup plus que 2 ans.
Bah,
deux
c'est
ans
ça.
Plus tard, on ouais. arrive à ce moment où...
Voilà, et ils sont toujours très, très bien, non, parce que ma mère commence à souffrir un peu. Et puis, à un moment, effectivement, les sous, ça devient vraiment compliqué, surtout que mon père, il a fallu lui prendre une aide à domicile pour quand même l'aider, et qu'il y a toujours les impôts qui tombent, toujours les taxes, etc., et puis les trucs d'entretien de la maison. Et il y a quand même régulièrement des moments où moi, j'ai commencé à mettre la main au portefeuille. Pour payer un coup le jardinier, un coup le un coup je sais pas quoi.
C'est quelque chose auquel tu penses à ce moment-là? Tu comprends ce qui se passe financièrement? Tu l'intellectualises ou c'est au cas par cas, au coup par coup?
C'est une bonne question. Je me rends pas compte forcément du système à ce moment-là. Je me dis c'est au coup par coup. Et puis ça va s'arranger. Et puis c'est pas des sommes si importantes, etc. Et tout.
C'est un coup de 500 balles par-ci, un coup de.
Ouais, 500 ou 1000 balles. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. À un moment, c'est un coup de 1000 balles par mois. Donc moi, je gagne assez bien ma vie. Quoi.
Tu gagnes combien par mois à peu près?
Je sais pas. Ça dépend des années, parce que entre 5 et 9000 balles par mois, quoi.
Ah oui, tu gagnes très bien ta vie.
Donc je suis nettement au-dessus du truc médian.
À cette époque-là, tu gagnes plutôt...
Ouais, c'est assez bien, j'ai plutôt... À mon avis, je gagne 7-8 000 balles par mois à ce moment-là. Tu vois.
Ah ouais?
Ouais.
Oui, donc c'est pas 500 ou 1 000 balles. Donc ça t'inquiète pas plus que ça parce que...
Non, c'est ça aussi. Voilà, exactement. Ça m'inquiète pas plus que ça, puisque je gagne bien ma vie et que voilà. Et que s'il faut, on vendra le garage ou le bureau ou la chambre de bonne. Hein. Bon, et sauf que dans la chambre de bonne, dans le bureau, il y a des gens, il y a des locataires, et qu'on ne vire pas les gens comme ça. Hein. Si j'avais eu à le gérer moi, je l'aurais fait autrement. Mais bon, voilà quoi. Mais donc ça m'inquiète pas. Puis à un moment, moi, je gagne bien, moins bien ma vie aussi, parce qu'il y a le Covid. Donc d'un coup, tout se ralentit un peu. Moi, je suis libéral, j'ai moins de commandes. C'est le moment où moi, j'ai un petit passage à vide financier qu'il faut payer de plus en plus de trucs. À un moment, bon, moi, j'ai une femme et un enfant. À l'époque, ma femme est en reconversion professionnelle. Voilà, mon enfant, il coûte pas très cher, mais quand même, quoi. Donc, bon, on avait notre budget à nous qui allait très bien, quoi. S'il n'y avait pas eu ces soucis-là parentaux, ça roulait, on pouvait partir en vacances où on voulait, etc. Donc, déjà, on ne pouvait pas partir en vacances si loin parce que, voilà, si on est en Thaïlande et qu'il faut rentrer en vitesse parce qu'il y a un vieux qui est en train de dans le coma, c'est hein, donc on est parti en général en France ou en Italie au plus loin. Donc déjà, ça nous a quand même pas mal impacté dans nos déplacements. On a plutôt fait pas loin, un peu à l'économie, etc.
Il y a un moment où tu commences à te dire, bon bah là, oula, serrage de ceinture en fait. Ou peut-être faire gaffe, ou peut-être...
Alors, disons qu'il ne faut pas que ça dure comme ça, ou il ne faut pas que ça recommence. Mais bon, il y a quand même un système qui est bizarre, quoi. Il y a un truc où je commence, et où on commence avec ma femme et ma fille, à être quand même vachement mis à contribution et à trouver ça pas normal. C'est-à-dire que c'est vraiment le moment où le truc s'inverse, quoi. Ça vient voilà, d'une culture parentale et paternelle, en l'occurrence, face à l'argent, qui n'a pas été très... qui a pas été super rationnel et puis ça vient d'un truc, c'est ce que en fait il y a eu un déni de la mort chez eux. C'est-à-dire qu'en fait ils ont toujours pensé que pouf, ça allait venir comme ça, ils allaient se rendre compte de rien. Il y a un déni de la maladie, c'est-à-dire qu'ils ont jamais pensé qu'ils allaient être malades. Alors, ils ont pas vraiment été malades, mais en tout cas dépendants. Donc le fameux chantier de la grande dépendance, qui est une bombe à retardement hallucinante pour les gens en France aujourd'hui. Il n'y a rien de pensé là-dessus. C'est-à-dire que ça va être un carnage, ça, politiquement, socialement. Il y a des gens qui ont leur patrimoine qui fond parce que leurs parents survivent. Et les gens vivent de plus en plus vieux, parce que ma mère, on lui a greffé un truc dans le cœur à 15 jours de sa mort supposée, prévue, quasiment. Voilà, les autres gens, on va les faire durer à coup de médoc, à coup de traitement. C'est même pas que ça coûte des ronds à la sécu, c'est que ça coûte... Enfin, les gens vivent très très vieux. Aujourd'hui, de plus en plus, quoi.
Ta mère a vécu jusqu'à 99 ans.
99 ans. Je pense qu'elle était trop coquette pour vivre jusqu'à 100 ans. Elle ne voulait pas avoir 100 ans. Mais elle était quasi centenaire, ouais, bien sûr. Mais des gens qui passaient les 90 ans, autour d'eux, il y en a eu beaucoup, hein. Et dans la maison de retraite, dans l'EHPAD, là, il y en a un paquet. Il y a des centenaires et tout. Alors, ils n'ont pas tous leur tête. Mais en l'occurrence, ils continuent de vivre, de respirer, de bouffer. De coûter un loyer à leur famille ou je sais pas ou à eux s'ils ont des grosses retraites, mais bon c'est un truc qui très clairement la société et les progrès de la médecine font que les gens vivent de plus en plus vieux et très clairement c'est absolument pas pris en considération, il y a aucune conscience de ça dans le politique, dans les gens même. Donc on pense toujours qu'on va être sauvé par le gong. Moi, en gros, mes parents, ils pensaient qu'ils allaient mourir comme ça un jour et puis que ça allait bien se passer et qu'ils allaient me laisser de l'argent pour payer l'enterrement et tout. Voilà, résultat, bon, ben, l'enterrement de ma mère, on n'a toujours pas fini de le payer, par exemple.
J'ai l'impression que tu leur en veux un peu.
Non, je n'en veux pas parce que je les aime et qu'ils m'ont vachement aimé et vachement aidé, etc. et tout, et qu'ils m'ont fait confiance et que même s'il y a eu des conflits, c'est plutôt des bons pas, c'est des très bons parents. Mais c'est impossible à un moment de pas se dire, putain, ils font chier quand même, quoi. Ils auraient pu faire un peu plus gaffe. C'est-à-dire, par exemple, le truc du contrat obsèque, je sais pas quoi, dont ils m'avaient parlé quand ma mère est morte, on s'est aperçu qu'il y avait absolument aucun contrat obsèque ni rien et qu'il n'y avait pas assez d'argent sur le compte. Et j'ai demandé à mon père de faire plusieurs chèques qu'on a filés au croque-mort qui les met à la banque une fois tous les mois, quoi. C'est un peu énervant de la part de gens en plus qui ont toujours été plutôt et qui ont toujours prêché la responsabilité sur les finances, etc., et qu'il fallait pas trop dépenser, etc., et le panier de la ménagère, et j'en passe, c'est des meilleurs, qu'il faut pas dépenser plus de ce qu'on a, etc., et tout. De fait, à un moment, ils lâchent l'affaire. et on est face à des gens qui sont plus responsables, quoi, mais qui n'ont pas pris de responsabilité 10 ans avant non plus. Quoi.
Et ils n'avaient pas du tout anticipé qu'ils vivraient aussi longtemps.
C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois ça et un déni de la mort. C'est-à-dire que chez eux, depuis 30 ans, la déco n'a pas changé. À un moment, le temps s'est un peu arrêté, quoi, comme si on n'y pensait pas, qu'on ne pensait pas à la mort, qu'on ne pensait pas que ça allait arriver, ou alors ça allait arriver de façon bienveillante, comme si la mort était bienveillante et que d'un coup, hop, ça allait arriver comme ça.
Mais attends, pour comprendre la chronologie, en fait, ta mère est décédée il y a 6 mois.
Ouais.
Et dans la foulée, en fait.
Ouais.
Tu t'es retrouvé à devoir prendre des dispositions pour que ton père, à son tour, aille en EHPAD.
Voilà, pas tout de suite, mais en gros, il a fait une grosse rage de dents qu'aurait pu se transformer en septicémie au moment où ma mère est morte. Voilà. Bon, il avait conscience quand même du truc, mais quelques mois après, oui, il se levait plus. Il a fait un séjour à l'hôpital encore. Oui, il était mieux. Oui, il valait mieux qu'il soit lui-même, qu'il aille en EHPAD. C'est une décision que j'ai prise avec lui. Je ne l'ai pas forcé, je ne voulais pas le déposer avec ses valises devant les pattes en disant « Ok, salut, à la prochaine fois ». Donc, il était d'accord, ça ne change pas grand-chose. Si ce n'est que je suis moi-même plus soulagé qu'il soit pris en main pour la modique somme de 3000 euros par mois.
Oui, puis si là, comme il n'y en a qu'un, il n'y en a plus qu'un.
Oui, voilà. Mais les deux, à l'EHPAD, ça aurait été très, très, très compliqué financièrement.
C'était quasiment impossible. Ouais,
C'était impossible. Enfin, c'est ce truc où à un moment, ça aurait influé sur leur santé. C'est-à-dire que s'ils avaient compris, senti que financièrement, ils étaient des charges, il y a un truc qui serait pas allé, ils seraient laissés mourir ou il y aurait eu un truc comme ça.
Ton père aussi, tu lui as caché?
Ouais.
Ce qui devait être plus compliqué parce que lui, il avait l'habitude de mettre son nez dans les comptes.
Oui, mais alors comme par hasard, il a légèrement perdu la tête sur ces questions-là, notamment ces questions se résumant à est-ce que j'ai ma carte bleue, est-ce qu'il y a assez sur le compte.
Bon.
Il voulait plus en savoir plus, il avait plus les moyens d'en savoir plus. De fait, il était plus trop capable de faire une addition les derniers temps là, avant qu'il parte en EHPAD. Donc
ils ont arrêté de s'inquiéter pour l'argent.
C'est ça, exactement. Et alors, c'est d'ailleurs assez... marrant, ça fait une forme de conclusion, en tout cas chez lui, qui est quelqu'un qui a beaucoup été angoissé par l'argent toute sa vie, qui avait fait un moment pas des mauvaises affaires, mais il a eu un souci, il avait failli fermer sa société, qui avait failli être mise en faillite, il avait dû hypothéquer sa maison, etc. et tout. Bon, il avait remonté la pente, après il a fini par revendre sa boîte, mais il avait été traumatisé par les épisodes comme ça. Et ça lui était resté en train de la gorge jusqu'au moment où, quand il vieillit, il refait complètement l'histoire. C'est assez étonnant. Et il dit « Mais moi, j'ai jamais eu de soucis. Hein, franchement, j'ai jamais eu de problème d'argent dans ma vie. J'ai jamais été très riche, mais je me suis toujours bien débrouillé. Voilà, ma boîte, ça a toujours bien roulé. J'ai jamais eu de problème, vraiment. Oh, je souhaite à beaucoup de gens d'avoir une vie aussi tranquille que moi, alors que mon père, je l'ai vu stressé comme un malade et fumer 3 paquets de clopes par jour pendant, je sais pas, au moins 10 ans, quoi.
Et qu'au moment où il dit ça, c'est toi qui payes.
Voilà.
Ouais.
Ouais, ouais. Mais c'est bien, ça finit bien pour lui parce qu'il est en train de passer ses derniers temps, je sais pas si ça va durer 15 jours ou 3 ans, mais assez paisiblement, quoi.
Et là, vous êtes à l'équilibre ?
Ouais, on est en train de revenir à l'équilibre. Ouais, ouais. Oui, parce que les funérailles de ma mère vont être bientôt finies d'être payées. Donc, en gros, il lui reste 3 500 de retraite par mois. Il y a 3 000 balles de loyer de l'EHPAD. Et en gros, ça va aller, quoi. Pas tout de suite, mais d'ici 6 mois, oui. Oui, puis moi, j'aurais payé les trucs... qu'il faut continuer de payer, les dettes qu'il avait, parce que c'est quelqu'un qui détestait faire des dettes. Il m'en a laissé à peu près 12 000 balles, je crois, quand il est parti à l'EHPAD. Entre les trucs qu'il n'avait pas payés, les factures en retard, des trucs de genre 2 mois d'aide ménagère, ça fait quand même 2 000 balles, ou un truc comme ça.
Ah, ouais. Il oubliait de payer?
Oui. Puis à la fin, il n'y avait plus d'argent, donc, et puis l'argent, il a fallu le mettre dans l'EHPAD, plus un mois de caution, etc. En gros, il y avait ma mère décède, il y a 6 000 euros à payer de funérailles, et puis il y a 3 000 euros peu de temps après pour mon père pour la caution de l'EHPAD et 3 000 euros pour le premier mois. Ça fait 12 000, ça va vite. Hein.
Ah ouais.
Quand en plus il y a 2 000 et quelques d'aides ménagères qui n'ont pas été payées, un truc d'assurance à 300 balles, un truc d'assurance à 150 balles, un truc d'assurance à 400 balles, des charges de copropriété pour le bureau, la chambre de bonne.
Quand les soucis financiers arrivent ou quand t'en parles à ta femme?
Oui, bien sûr. Oui. Moi, je lui en parle, elle est très en soutien, etc. Et en même temps, je comprends que ça lui t'a posé sur un nerf à des moments. C'est-à-dire que on est bloqué quelque part dans nos agissements. Encore une fois, on n'est pas à la rue. Mais bon, il y a un truc où, en gros, nous, notre argent, ma femme, elle a bossé pendant 2 ans pour faire une reconversion professionnelle. Elle a bossé dur, voilà. Elle commence son boulot. Ça marche évidemment pas tout de suite. Ça marche heureusement très, très bien au bout de 6 mois, ce qui est le minimum. Et néanmoins, on est quand même bloqué dans nos agissements, dans nos... Voilà, elle me prête de l'argent pour le... Elle me donne de l'argent pour l'entrée de mon père en EHPAD.
Qui est pas son père.
Qui est pas son père. En plus, avec qui elle a des rapports autant elle aimait ma mère énormément, autant avec mon père. Mon père est un mec plus compliqué. Donc, c'est... Voilà. Après, c'est les vieux, on est tolérant avec les vieux, etc. C'est ça aussi, c'est ce truc où on se retrouve, où c'est notre humanité aussi, mais encore une fois, notre humanité a un coût, quoi. C'est très trivial de dire ça, et c'est antinomique presque, mais c'est notre humanité qui est en jeu, évidemment. On va pas laisser un vieux sur le carreau. On va pas le laisser chez lui alors qu'il peut tomber, prendre ses pieds dans le tapis et tomber et rester une journée agonisant.
Donc. Est-ce que t'as pu en parler? À tes proches, à tes amis, est-ce que c'est quelque chose qui est facile à partager? Est-ce que
La colère aide à partager, ouais. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'à un moment, ils me font chier les vieux là. Ah, mon père, il me saoule là, vraiment. Là, j'en ai marre, mais vraiment. Enfin, il avait rien prévu. Tu te rends compte, je suis en train de payer le truc, l'enterrement de ma mère, et puis je lui fais faire des chèques à lui pour qu'il paye en plusieurs fois, et moi-même, faut que j'avance de l'argent. Etc. Enfin, non, ouais, je pense que quelque part la colère de ce truc qui est contre nature. Normalement, les vieux, ils partent et puis ils n'emmerdent pas leurs enfants et les enfants restent avec eux, ils restent après eux avec leur peine. Là, c'est de la peine plus des emmerdements, quoi.
C'est de la perte plus la perte.
Ouais, c'est ça. Oui. Et donc effectivement, à un moment, le ras-le-bol, la colère permet d'en parler. Et de fait aussi, les amis qui sont à peu près dans ma classe, en gros, qui ont passé la cinquantaine, ils ont pour une bonne partie été confrontés à ça, ou le sont encore. Ouais, ça commence à venir. Ouais. Mais c'est un sujet sur lequel il y a plusieurs tabous. Il y a le tabou de l'argent, puis il y a le tabou de la mort, et puis il y a le tabou de l'amour familial. Enfin, il y a un tas de trucs qui vont chahuter l'inconscient. Qui se mélangent. Donc, c'est pas des sujets simples, en fait, à traiter.
Je me demande très sincèrement si c'est pas arrivé à tous les gens dans cette situation-là, à un moment, consciemment ou inconsciemment, de se dire, faudrait bien que ça s'arrête. En même temps, ça, c'est quand même souhaiter la mort des gens que tu aimes. Enfin...
Exactement. Donc, il y a évidemment, un de mes soucis ou un de mes chantiers était de m'éviter la culpabilité aussi. Je pensais aussi à moi, je pensais... voilà. Après, ma mère avait toujours été assez... je suis passé pour un taré, mais parfaite avec moi, je vais dire. Donc, en gros, je voulais vraiment que tout se passe bien pour elle et qu'elle meure très paisiblement, qu'elle continue de vivre le plus paisiblement possible pendant longtemps, quoi. Mais je faisais aussi attention, moi pour moi, à me dire attention, parce que si jamais il y a un accro, il y a un accident, et un accident peut... générer de la mort et voilà, une mort subite d'un vieux, etc. Ne serait-ce qu'une poussée de tension, des conneries comme ça. On en est. Ils cassent comme du verre, les petits vieux. Hein, faire attention, quoi.
Ah, donc, il fallait pas que tu faisais attention aussi à les préserver psychiquement, c'est-à-dire à pas avoir un mot plus.
Bien
à
sûr.
Si tu étais inquiet, par exemple, financièrement, à pas le montrer.
Bien
à,
sûr.
Surtout bien rien sûr. Faire peser.
Bien sûr, parce qu'en plus, ils avaient quand même grandi et vieilli dans l'idée qu'il fallait pas emmerder les autres, il fallait pas faire porter à leur fils des soucis. Donc, c'est quelque chose qui aurait pu les faire mourir, ouais, les aider à mourir, je pense, réellement. De la même façon que leur montrer ma fille, leur donner quelques points de vie en plus, leur montrer que j'avais des soucis d'argent à cause d'eux, leur retirer des points de vie, je pense.
T'as une idée de combien ça t'a coûté jusqu'à présent?
Je dirais 20 000 balles sur 3 ans. Voilà. C'est pas une somme folle, hein. Je dirais un truc comme ça. Qui va se rembourser petit à petit. Et puis, il y a du capital. Donc,
voilà, avant, ton père va mourir, tu vas hériter.
Ouais, enfin, alors le truc des droits de succession, c'est un autre sujet. C'est-à-dire que, à un moment, je me suis dit, oh là là, si jamais, ma mère est partie là, si jamais lui casse sa pipe dans le mois qui vient, ce qui n'était pas exclu. Comment je vais faire pour payer les droits de succession? C'est-à-dire si je dois, alors je vais vendre la maison dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle il y a tout un tas de bordel que je voudrais quand même avoir le temps de trier. Et puis je préférerais pas la vendre le couteau sous la gorge. Voilà, ça va me faire un choc, quoi, de la vendre en 3 mois ou 6 mois à un prix trop bas ou défiant toute concurrence parce qu'il faut vite s'en débarrasser. Parce que c'était un truc, voilà, il y avait, je sais pas, à vue de nez comme ça, il y a entre 50 et 80 000 balles à sortir, quoi, pour le fisc. Parce qu'encore une fois, pas une somme délirante quand il y a du capital et du mètre carré, mais quand en gros, on n'a pas trop d'économies parce qu'on a fait plein de dépenses ces derniers temps qui étaient des dépenses d'investissement pour soi, pour son couple, dans sa maison, enfin, voilà, bon, à un moment, on se dit, attends, comment je vais payer là, si jamais il claque demain, ça va être une galère, quoi.
Bizarrement, j'ai l'impression que le plus dur, ça a été le moment de prendre la main sur les comptes. Là, il y a un clic, ouais, qui n'est pas facile à faire, mais c'est comme si, dans ta narration, une fois que tu l'avais fait, bon, bah...
Oui, mais bien sûr. Bien sûr, parce que c'est mettre la main sur les comptes, ça veut dire plein de trucs. Déjà, c'est un endroit qui, moi, j'estimais ne me regardait pas. C'était les comptes de mes parents et pas les miens.
C'est très personnel, finalement, les comptes.
Mais bien sûr, évidemment. Moi, par exemple, depuis qu'ils avaient signé, ça remonte à 20 ans, hein, une procuration au cas où, sur leur compte. Moi, quand je regardais mon compte sur Internet ou à la banque, j'avais aussi le montant de, enfin, de la situation de leur compte à eux.
Leur solde
à eux. Voilà. Par exemple, c'est un truc que je ne regardais pas. Je m'empêchais de le regarder. C'est-à-dire que je faisais un mouvement des yeux qui faisait qu'une fois que j'avais regardé mon compte à moi, je voulais pas savoir combien ils avaient sur leur compte. Ça ne me regardait pas.
C'était leur intimité ?
C'était leur intimité complètement, ouais. Ouais.
Donc, ouais. Y a, pour toi, le moment où tu dois faire ce move,
ouais,
si tu dois prendre en main leur compte,
ouais,
c'est le moment où tu te retrouves en position de contrôler leur vie ou en charge d'eux, ou en tout cas...
C'est un peu comme si j'entrais dans leur chambre, déjà.
Mais quelle horreur ! Personne ne veut ça.
Voilà, donc il n'y a pas des rétros. Et puis, ça veut dire qu'ils ne sont plus en mesure de le faire, donc ça veut dire qu'ils vieillissent, ça veut dire que je vieillis, ça veut dire plein de trucs, quoi. Et ça veut dire, attends, comment on va faire pour gérer ça ? Et ça veut dire des comptes en plus, des emmerdements en plus. Moi, les comptes, ce n'est pas tellement mon truc. Je sais combien j'ai sur le mien, je sais à peu près dans quelle zone je suis. Voilà, je sais à peu près à 6 mois ou 1 an ce qui va me tomber à peu près dessus en positif. En négatif, parfois, ça arrive aussi parce que les huissiers qui ont sonné à la porte l'autre fois parce que j'avais juste oublié de payer l'URSSAF parce que juste, j'avais plus du tout pensé.
Oui, donc t'es pas non plus le champion de la comptabilité.
Je suis pas non plus le champion de la comptabilité. Mmh. Je sais en gros que quand il y a de quoi payer, ça va, je suis tranquille et sinon, faut que je m'inquiète, quoi. Bon, mais là, disons qu'à un moment, mettre le nez dans leur compte et tout, ça a dit, OK, faut que tu t'inquiètes. Or, c'était pas de ma faute, quoi. Mmh. C'est ça, c'est qu'il y a un truc d'injustice là-dedans, quoi, qui est dû à leur incapacité à le faire parce qu'ils vieillissent beaucoup, et puis à une forme de lâcher prise. Voilà, c'est ça aussi que je vois. C'est des parents qui ont toujours été très rationnels, très à faire leur compte, et comme disait ma mère, mon père payait les factures avant qu'elles arrivent. Mais à un moment, il y a ce truc où, OK, il y a là, quoi, je lâche l'affaire.
T'as l'impression qu'ils ont démissionné avant... Qu'ils ont un peu laissé filer, quoi.
Oui.
Ouais.
Oui, c'est ce truc-là. Donc, moi qui me retrouve avec cette responsabilité-là. Et ce qui était quelque chose dont ils m'avaient toujours assuré que ça n'arriverait jamais. Mon père, il n'y a pas longtemps, me disait « Jamais, jamais je ne te laisserai avec des dettes. » Tu parles. J'allais pas lui enfoncer le nez dans ses dettes.
C'est quelque chose, j'imagine, qui te fait réfléchir sur... désagréable, mais sur toi, ton futur et...
Oui, mais très clairement sur la mort, hein, sur...
Bah, même avant ça, enfin, sur...
Oui, et puis après, avant ça, effectivement, de façon assez rationnelle, sur qu'est-ce qu'il faut faire quand on va être plus vieux.
Toi, t'as une petite fille.
Ouais, j'ai une petite fille en bas âge, voilà. C'est ce truc de préparer ses arrières à voir, voilà. Et en gros, je pense que très trivialement, bah, c'est voilà, il faut avoir un petit peu de capital de côté, quoi.
Tu mettais de côté avant ?
Je mettais de côté dans la mesure où je voulais acheter une maison.
Donc il n'y a pas si longtemps.
Donc il n'y a pas si longtemps, parce que la maison, on l'a acheté il y a 7 ans, je crois. Et après, en revanche, c'était moins... voilà, en gros, je me disais, après, il faut payer les traites, enfin le crédit. Et puis, tant qu'on peut payer le crédit, il n'y a pas de souci, quoi.
Et maintenant
Maintenant, je me dis, bah, je suis devenu un plus vieux, je suis devenu comme mes parents. Faut moi-même que j'aie, je sais pas, une chambre de bonne quelque part que je puisse revendre un jour. C'est probablement celle dont je vais hériter ou le bureau dont je vais hériter quand j'aurai payé les droits de succession, etc. J'ai conscience d'être un hyper privilégié. Vraiment. C'est-à-dire que quand on avance, moi, j'ai des amis qui ont mon âge, hein, ou même un peu plus et qui avancent, en gros, vers la retraite. Moi, j'ai des amis qui n'ont jamais accédé à la propriété, comme on dit dans les publicités, et qui se retrouvent à se dire, bon, bah, dans 5, 6 ans, 7 ans, je vais prendre ma retraite. Et bah, donc, j'aurai une décote sur mon salaire ou mes revenus. J'aurai, en gros, au moins un tiers de moins, voire moitié moins. Et je ne suis pas propriétaire, comment je vais faire pour me loger? Donc ça, c'est un truc très angoissant. Moi, j'ai un toit au-dessus de ma tête. J'ai pris ce crédit. On a pris ce crédit avec ma femme il y a 7 ans. Donc, on a un truc qui nous appartient.
Et très franchement, tu devrais, toi, prévoir tes obsèques, mettre de l'argent de côté pour un possible EHPAD. T'as pris une mutuelle, je sais pas, enfin, tout ben, ça.
Écoute, très clairement, je crois toujours pas de mutuelle.
T'as pas de mutuelle?
J'ai pas de mutuelle. J'ai pas de lunettes non plus. Je fais le jeune homme, je sais pas, mais je.
Mais donc tu reproches à ton père de pas avoir de mutuelle, ouais, mais t'en as pas non plus.
Mais je fais la même chose. Bon, j'ai quand même 40 ans de moins, quoi.
Mais bon.
Mais oui, non, mais évidemment. Et je sais qu'il faudra que je
fasse. À quel moment tu vas cliquer, quoi?
C'est une bonne question.
Parce que tu.
Je sais pas à quel moment je vais le faire, mais effectivement. Et puis, oui, bon, pour le contrat obsèque et tout, je vais quand même attendre un peu, quoi. Mais cela dit, j'ai fait un truc qui m'a à moitié fait marrer, à moitié fait bader, c'est que j'ai fait mon testament au cas où il m'arrive un souci. Mais oui, évidemment, donc je pense pas à tout ça aujourd'hui. Je suis aussi comme eux, en partie dans le déni de la mort, ouais. Bien sûr. J'ai fait un enfant à 50 ans, j'ai fait tout tard, évidemment. Et quelque part, je pense aussi, je vais pas faire mon propre psy, mais que c'était aussi pour les faire vivre le plus longtemps possible. C'est-à-dire que plus les choses duraient, plus les choses mettaient du temps à se faire, enfin, les choses, c'est-à-dire, je sais pas, acheter une maison, avoir un enfant, hein, être un adulte responsable, bah, plus ça arrivait tard, plus mes parents vivaient vieux. C'était un peu de la pensée magique, mais de fait, c'est ce qui s'est passé.
Et peut-être que tu vivras aussi longtemps qu'eux, peut-être encore plus.
Bah, il y a les gènes d'un côté, effectivement, chez eux, chez moi, enfin, on a de bons gènes.
Et donc, t'es dans le même déni, en fait. Tu te dis pas du tout, je pourrais prendre un bus demain,
bien
je
sûr.
Prends mes dispositions.
Mais bien sûr, mais oui. Mais je suis dans le même déni, évidemment. Mais oui, bien sûr, j'ai été élevé là-dedans. Je ne sais pas si ce sont eux qui me l'ont donné ou moi qui leur a donné, mais il y a eu un truc, évidemment, il y a une espèce de contrat pas dit, inconscient entre eux et moi.
Et là, maintenant, le fait que la situation financière soit apaisée, comme tu dis, enfin, tu n'as plus que une brique dehors et ça va s'étaler. Et maintenant, le truc est plus ou moins à l'équilibre.
Oui.
Est-ce que ça t'apaise par rapport aux relations que tu as avec ton père?
Oui, j'ai un peu moins envie de lui dire « te fous pas de moi, t'as fait le mec responsable toute ta vie, tu m'as laissé avec des dettes ». J'ai un peu moins envie de lui voler dans les plumes, vraiment. Il est bien là où il est, dans le même EHPAD où était ma mère. Il a pris la chambre 2 numéros plus loin, c'est la même chose. Je vais le voir à peu près pareil, un peu moins souvent parce que comme il a pas la notion du temps, il sait pas si je suis venu le voir la veille ou 3 semaines avant, donc de fait c'est moins contraignant. Je l'ai au téléphone assez régulièrement. Je sais par les aides-soignantes que ça va, s'il y a un souci, il m'appelle. Enfin, les aides-soignantes m'appellent, l'établissement m'appelle. Donc, je suis très tranquillisé là-dessus, quoi. Et je me dis que de fait, maintenant, il va réussir à peu près à subvenir à ses propres besoins, puisqu'en gros, ses revenus vont couvrir l'EHPAD et 2-3 bricoles. Et comme ça, voilà, ça peut durer encore un bout de temps, ouais. Oui, je suis un peu sorti. Je suis en train de sortir des soucis, oui.
Voilà, c'est fini. Vous pouvez reposer en paix, puisque vous avez écouté Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel. La post-production est assurée vaillamment par Frédéric Fortuny, sur une musique toujours d'Emma Bitson. Si vous avez apprécié, si vous aimez Thune, n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee, sur les réseaux sociaux, en nous laissant des étoiles, des commentaires sympas sur Apple Podcasts et toujours à nous faire des retours. À bientôt.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.